Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Tous les 4 ans, c'est la même chose, les fabricants de téléviseurs profitent de la Coupe du Monde de football pour vendre de nouveaux postes plus performants. Mais cette année, investir dans une nouvelle télé ne suffira peut-être pas pour suivre la compétition dans les meilleures conditions, car une menace plane au-dessus des supporters. Et si les opérateurs décidaient de couper le signal à TF1 qui détient les droits du mondial? Alors une telle menace n'est pas seulement virtuelle, Canal+ en a fait la démonstration au début de ce mois en décidant de ne plus diffuser sur son service TNT-SAT les chaînes du groupe TF1. Pour quelle raison? Eh bien parce que TF1 exige désormais que les diffuseurs payent pour avoir le droit de proposer ses programmes dans leurs offres d'abonnement. D'ailleurs, SFR et Orange ont fini par accepter. Et parce que Canal refuse de payer, c'était aussi le cas de Free, au motif que les chaînes en question sont des chaînes gratuites. Alors ce qui pourrait apparaître comme un simple conflit commercial est en fait bien plus profond que cela. Car derrière les négociations en cours, il y a tout un secteur, celui de la télé, qui s'interroge sur son devenir, confronté qu'il est à la montée de la SVOD, le service de vidéo à la demande qui permet de regarder les programmes en différé avec moins de publicité, mais confronté également à la concurrence de nouveaux acteurs tels Netflix, d'autant plus puissants qu'ils sont entièrement autonomes et non soumis à la réglementation du secteur audiovisuel. Alors la télé est-elle prête pour l'après-télé ? C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Nathalie Sonnac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, professeur des universités, spécialiste de l'économie des médias, de la culture et du numérique. Pour discuter avec vous, Fabienne Schmitt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, journaliste aux Échos, chef du service high-tech et médias. Et puis Olivier Bomsel, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, vous dirigez la chaire d'économie des médias à Mines Paris Tech et vous avez publié dans la collection Folio Essai, c'était en 2017, la nouvelle économie politique. Alors je voudrais d'abord commencer peut-être par un point de droit, une question à laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de réponse en préparant l'émission. Il y a donc eu la décision de Canal+ de couper le signal de diffusion de TF1 sur son offre satellitaire. Ça a été rétabli hein, ce week-end, d'abord partiellement et puis ensuite entièrement. Mais est-ce que Canal avait le droit de couper la diffusion d'une chaîne comme celle de TF1 ? Nathalie Sonnac, je me tourne vers vous. Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez me répondre.
Je pense que c'est effectivement en ces termes-là que s'est posée la problématique. Il avait la possibilité mais effectivement, d'un point de vue de principe, on peut évidemment comprendre que ce soit extrêmement gênant, notamment pour les habitants, comme on dit, des zones blanches, c'est-à-dire qui ont la seule possibilité d'accéder aux chaînes de télévision, notamment gratuites, via le satellite, et que CanalSat possède un grand nombre de téléspectateurs et qui, lorsque Canal décide de couper le signal, eh bien, empêche ces gens-là d'avoir accès. Alors, est-ce que maintenant, ils avaient le droit ? Oui, dans la mesure où il existe de toute façon un autre acteur qui s'appelle FranceSat et qui donne accès à tous ceux qui regardent la télévision via le satellite aux chaînes de télévision gratuites.
On peut d'ailleurs poser la question à l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'une chaîne peut priver un diffuseur de ses programmes ? C'est ce que TF1 a tenté de faire avec Orange en refusant l'offre en VOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande, Fabienne Schmitt, mais tout en continuant à diffuser ses programmes de flux. C'est parce que TF1 n'avait pas la possibilité d'empêcher Orange de diffuser ses chaînes.
Oui, voilà, en fait, c'est assez complexe. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne les services replay, rediffusion, TF1 peut lui-même couper le signal et les enlever chez le diffuseur, donc l'opérateur télécom. En revanche, s'il veut que l'opérateur télécom enlève TF1 de ses bouquets, il est obligé d'en faire la demande auprès de l'opérateur télécom. Il ne peut pas l'enlever lui-même directement.
Est-ce que ça donne déjà une petite idée du rapport de force qui existe dans ce secteur, Olivier Bomsel ? C'est-à-dire que finalement, ce sont les diffuseurs, ceux qui ont les tuyaux, qui ont peut-être un petit peu plus de pouvoir que ceux qui produisent le contenu.
Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce qu'on vient d'un monde dans lequel le seul moyen d'entrer chez le consommateur, c'était le hertzien, d'abord analogique terrestre et puis ensuite numérique. Et puis est venu le satellite. Et maintenant, il y a, avec le déploiement d'Internet, de la DSL, avec les fameuses box d'offres triples qui ont distribuer de la télévision en même temps que de la téléphonie et de l'Internet pour les consommateurs, des moyens alternatifs de rentrer. Et surtout, grâce à Internet, au-delà même des services qu'offrait la box au départ, il y a la possibilité de regarder la télévision sur son téléphone portable, sur sa tablette, dans un régime qu'on appelle « over the top », c'est-à-dire sur la surface d'Internet, sans passer par les canaux réservés, qui étaient les formes de distribution que proposaient les box. Et justement, donc, devant cette multiplication des systèmes de distribution, celui qui a les droits de la Coupe du Monde, celui qui a le Nutella, si vous voulez, il est en position de force par rapport à ses distributeurs.
Alors, on va rester justement sur cette idée que le rapport de force est plutôt favorable à ceux qui produisent les contenus. Est-ce que c'est la raison pour laquelle TF1 s'est senti suffisamment fort pour tenter de négocier de nouveaux tarifs pour auprès des opérateurs que sont Orange, que sont Free, que sont Bouygues. Alors Bouygues, c'est un petit peu particulier parce que ça fait partie de la même maison, même si paraît-il, il y a quand même eu des négociations, que sont aussi Canal+, en disant, ben voilà, nous, on a des contenus qui sont de qualité. Vous, les offres d'abonnement que vous proposez à des tarifs qui sont quand même pas négligeables, elles se basent justement sur la richesse de notre offre. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous ne nous donniez pas d'argent et beaucoup plus d'argent que ce qu'on perçoit aujourd'hui. Nathalie Sonnac.
Peut-être qu'il y a deux choses qui sont un tout petit peu différentes, mais qui se complètent. Il s'avère que les services qui sont offerts par le groupe TF1, en l'occurrence, mais M6 fait exactement la même chose, ce sont des services ajoutés, donc ces services premium, c'est-à-dire la possibilité de voir la télévision dite de rattrapage, donc la catch-up, ou encore des services tels que Over the Top, avec la possibilité, d'un point de vue technologique, de redémarrer, de regarder le film à un moment où je veux. Donc ça, ce sont des services que TF1 appelle premium, et c'est cela dont TF1 demande, et dont les groupes de télévision demandent une rémunération. C'est pas complètement sur les services qui existaient déjà.
Donc, même si c'est pas très clair, hein, quand on voit les interviews de Gilles Pélisson, le directeur TF1, on sait pas très bien s'il veut vendre ses services premium, ou si c'est pas le package global.
Mais c'est deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, la raison pour laquelle il s'est mis à les proposer à la vente, c'est parce que ce sont des services premium, mais dans le même temps, même si ce sont des services qui sont gratuits, il est comme TF1, TMC et les autres chaînes de télévision du groupe, ça représente de la valeur pour les opérateurs privés et que sont les telcos ou les FAI. Donc il y a quand même deux éléments. C'est à la fois, ce qu'on ne peut pas soustraire de tout ça, c'est qu'on est dans une transformation complète du paysage audiovisuel et que clairement la révolution numérique, c'est à la fois une révolution qui est technologique, c'est une révolution qui est économique et une révolution d'usage. Et TF1, dans sa demande de rémunération par les telcos de ces services, c'est à la fois, c'est en même temps, si j'ose dire, des services premium, ils demandent une rémunération, mais de façon plus générale, de bien faire comprendre, et là je rejoins complètement Olivier, que la valeur ne se trouve évidemment pas dans le transport du contenu, mais qui est le contenu.
Quand vous dites les telcos, ce sont quoi? Les opérateurs télécommunications?
Oui, pardon, les opérateurs télécommunications.
Voilà. Et les FAI, d'accès, ce sont le fournisseur d'accès à Internet.
Et les fournisseurs d'accès à Internet, pardon.
Fabienne Schmitt.
Bon, en réalité, la demande de TF1 a été assez osée au départ, hein, parce que finalement, TF1, c'est un peu le petit poucet face à des géants, quoi. Orange, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup plus gros que TF1. Donc, on parlait du rapport de force tout
TF1,
à l'heure.
TF1, c'est 2 milliards.
Niveau financier, c'est sans commune mesure. Donc, c'était assez osé de la part de TF1. D'abord, parce qu'ils ont une force de frappe financière moins importante. Et puis, parce qu'ils ont voulu complètement changer les règles du jeu. Jamais un opérateur télécom n'a payé pour reprendre une chaîne gratuite. Et donc, du coup, très peu. Donc là, ils ont voulu faire augmenter les sommes de manière considérable. Et tout à l'heure, vous disiez, c'est pas très clair, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire payer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont évolué dans leurs arguments. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont arrivés avec les grands sabots en disant, voilà, on veut faire payer des services ajoutés, puis on veut faire payer le signal, c'est-à-dire bien la chaîne elle-même, la chaîne TF1 elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui a été qui a vraiment bloqué les négociations. C'est-à-dire que si on a eu cet affrontement très fort entre opérateurs télécoms et TF1, c'est parce que TF1 a voulu faire payer le signal. Les opérateurs télécoms étaient d'accord pour payer ce qu'on appelle les services associés, donc qu'a énuméré Nathalie, mais pas du tout pour rompre ce principe de faire payer la chaîne chaîne TF1. Donc ce n'est qu'à partir du moment où ils ont arrêté d'argumenter dans ce sens que les négociations ont pu se débloquer.
Est-ce qu'on peut dire, Olivier Bomsel, que TF1 était légitime en demandant à ce que, alors par exemple, Canal, à ce que Orange, à ce que SFR payent pour leur service plus, disons, c'est-à-dire des services associés, mais qui permettent d'enrichir les programmes, et qu'à l'inverse, ça n'était pas légitime de demander de l'argent pour diffuser ce que l'on peut voir sur d'autres modes de diffusion, dans la mesure où ce sont des programmes qui sont diffusés gratuitement.
La légitimité, elle se réfère au droit. Donc la question, c'est est-ce qu'ils avaient le droit ? Moi, je pense qu'ils avaient le droit. En réalité, ils ont avec le CSA un accord de concession qui leur octroie une fréquence hertzienne pour émettre, en échange de quoi ils doivent souscrire à un certain nombre d'obligations. Et c'est par le truchement de cette diffusion hertzienne et satellitaire, là où il y a des trous dans la couverture hertzienne terrestre, qu'ils sont distribués conformément à leurs obligations légales. Après, ce sont des distributeurs qui les reprennent et qui les adjoignent à leur offre. Donc on est Nutella à l'Intermarché. Intermarché dit, il n'y a pas de raison que je mette pas le Nutella à mon prix dans mes linéaires, et le consommateur vient chez Intermarché, m'achète accessoirement le produit sur lequel je fais de la promotion, et puis sur tous les autres. Et TF1 dit, puisque en réalité mon produit fait partie d'un bouquet avec d'autres que vous faites payer globalement aux consommateurs, il n'y a pas de raison que je ne vous demande pas une rétribution pour ça.
On pourrait, cela dit, avancer l'argument inverse, c'est-à-dire on pourrait se dire que finalement TF1 bénéficie aussi d'un mode de diffusion, même si ce n'est pas un mode exclusif. Et pourquoi est-ce que l'argument inverse n'est pas avancé ? C'est-à-dire pourquoi Orange ou SFR ne disent pas, si vous pouvez vendre des écrans publicitaires, c'est parce que vous êtes largement diffusé, et si vous êtes largement diffusé, c'est parce que vous êtes présent dans nos box.
Mais ils l'ont dit, c'est pour ça qu'ils ont coupé le signal.
Donc payer des droits de péage, mais ils pourraient exiger des droits de péage, non ?
Ils l'ont dit, c'est la raison pour laquelle effectivement ils demandent une rémunération. Mais
oui, mais c'est Orange qui pourrait demander à TF1 d'être payé, non ?
Alors je vais vous dire encore les choses à l'inverse. Est-ce que finalement vous connaissez un groupe tel que de télécommunications ou de fournisseurs d'accès à Internet qui offre aux consommateurs ce qu'on appelle des offres triple play ou quadruple play et qui finalement ne véhicule aucun contenu ? Non, on voit bien que la valeur économique réside dans le contenu. Celui qui, effectivement, alors en échange d'une allocation de fréquences gratuite issue du domaine public, ils ont un certain nombre, et un nombre certain, si j'ose dire, d'obligations, de quotas de production, de quotas de diffusion, de participer au financement de la création, et que clairement, aujourd'hui, on ne peut pas regarder l'univers, le paysage audiovisuel, sans regarder son contexte. On est dans un univers qui est aujourd'hui totalement ouvert, accessible à tous, avec, et finalement, TF1 est un tout petit, comparativement, par exemple, au groupe Orange ou au Free, mais que lui-même ne me semble pas très grand par rapport à un Amazon ou à un Netflix qui lui-même est petit par rapport à un Amazon qui lui-même par rapport à un Google. Donc on voit bien que le paysage aujourd'hui audiovisuel ne s'inscrit plus simplement entre des acteurs qui sont des acteurs de l'audiovisuel, qui fabriquent des programmes audiovisuels et qui les proposent soit gratuitement, soit sous forme de paiement aux téléspectateurs. On est avec des nouveaux acteurs, on a parlé des groupes telco, on a parlé des FAI, mais des acteurs internationaux, et donc la concurrence est internationale. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est véritablement mettre de l'argent dans les contenus, investir dans les contenus. Et le moyen d'investir dans les contenus, c'est d'aller chercher de nouvelles sources de financement pour les chaînes de télévision, pour qu'elles puissent participer à cette concurrence internationale qui, une fois encore, se mesure et se joue sur la qualité des programmes offerts. Vous regardez combien d'argent est mis dans les séries américaines et combien on est capable, nous, en France, d'en mettre. On voit véritablement qu'aujourd'hui, la grande chance que nous, téléspectateurs, nous avons, c'est d'avoir un grand choix. Mais ce choix-là, à partir du moment où il ne se fait pas sur l'accessibilité, enfin par le prix, mais il se fait forcément par la qualité.
Fabienne Schmitt.
Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure des demandes des opérateurs télécoms. Effectivement, ils pourraient très bien, on aurait très bien pu imaginer qu'ils disent, est-ce que moi je peux pas être payé finalement ? Ils sont pas allés jusque là. Par contre, ils sont allés regarder les modèles étrangers. Et TF1 aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que TF1 a imaginé ces nouvelles règles du jeu. C'est-à-dire qu'à l'étranger, il existe un modèle selon lequel il y a certaines chaînes gratuites qui sont rémunérées par des opérateurs télécoms. Mais ce qui se passe aussi, c'est que en échange, elles partagent aussi leurs recettes publicitaires.
Voilà, c'est l'argument de Canal+, de dire, ok, pourquoi pas vous payer, mais il faudra partager le gâteau voilà. publicitaire. Donc, évidemment, TF1 est un petit peu moins d'accord.
Elles ont avancé cet argument. Elles ont essayé, les opérateurs télécoms ont essayé d'obtenir ça. Ils ne l'ont pas obtenu. Ça, c'est quand même un peu dommage dans la négociation, en tout cas.
Mais là, assez rapidement, Free, aujourd'hui, annonce que potentiellement, il pourra se passer de la distribution des chaînes de télévision. Donc, on voit bien que finalement, certains opérateurs peuvent considérer, la valeur ajoutée, ce ne serait pas le contenu et je n'offre plus de télévision aux téléspectateurs parce qu'il y a d'autres vecteurs de distribution aussi des chaînes de télévision. En revanche, des acteurs comme Orange, comme Canal et évidemment comme Bouygues, on choisissent autrement. Mais s'ils choisissent à ce moment-là de distribuer des contenus, on peut le voir en fait assez bien. On a pu voir l'incidence que cela avait lorsque Canal+ a coupé, son signal. Sur le journal de 20h. France 2 est passé avant TF1. Donc ça veut bien dire que via la box Canal et via ces SAT, il y avait des gens qui regardaient des chaînes, donc des abonnés de Canal+, qui regardaient les chaînes de télévision gratuitement. Qui sont gratuites sur d'autres vecteurs.
Justement, quand on réussit à voir quel a été l'impact de cette coupure, alors même si ça n'a pas duré très longtemps, mais est-ce que ça n'est pas la preuve inverse de ce qu'on nous prédit aujourd'hui, c'est-à-dire de cette avancée de la télé en différé, de la télé délinéarisée? Est-ce que là, ça ne va prouver le fait que la télé de flux, c'est-à-dire la télé qu'on regarde en direct, Olivier Bomsel, est encore le mode ultra dominant aujourd'hui et que ces bouleversements qu'on nous annonce depuis quelques années ne sont pas encore arrivés, en tout cas pas encore arrivés en France?
C'est dominant dans les maisons de retraite, oui, très 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 largement. C'est là où on bat toutes les statistiques de consommation de télévision quotidienne. Après, dans les
3h42 par jour en 2017, la durée moyenne pour regarder la télé. Une minute de moins qu'en 2016. On ne peut pas dire que ça soit
Les gens de la tranche 18-35, ils sont autour d'une heure par jour. Et que les gens de la tranche 60-90, ils sont autour de 5 heures ou 6 heures par jour. Donc, le découpage ou la segmentation, si vous voulez, de la population est très importante en la matière. Et ce que cherche TF1, de mon point de vue, c'est pouvoir non seulement, bien sûr, diffuser auprès de ses téléspectateurs traditionnels et des générations anciennes, mais aussi de capter à travers des services à la demande dont la consommation affecte beaucoup, bien davantage les jeunes générations, du nouveau public, et vers ce nouveau public, diffuser plus nécessairement à travers les box, mais diffuser à travers les réseaux de téléphonie, les tablettes, d'autres formats, et surtout, le plus important, à travers leur application. Parce que sur leur application, il faut s'inscrire. Donc, on sait nommément qui regarde. On peut lui adresser des messages publicitaires profilés, personnalisés. Et on a, d'une certaine manière, un panier moyen par consommateur qui est bien supérieur à ce qu'on obtient dans les maisons de retraite à 6 heures de diffusion par jour.
Alors que quand on passe par un opérateur, c'est l'opérateur qui contrôle les données.
Absolument.
Et qui peut, lui, justement, ajuster son offre.
Absolument.
Oui, donc, on voit bien que ça soulève de nouvelles problématiques. Ça soulève la problématique de la donnée privée, de l'accession du distributeur à de la donnée privée. Ça pose la question de la loyauté des plateformes. Ça pose
la
question...
À la donnée client, en la matière.
Alors, la donnée client...
C'est pas de la donnée privée, c'est de la donnée client. parce que celui qui s'inscrit est client de l'éditeur.
Oui, mais c'est quand même là la question du service public pourrait se poser, parce que si nous sommes tous des clients et non pas des usagers, ça pose un problème de démocratie. Enfin, rappelons quand même que nous ne sommes pas en train d'échanger sur des boîtes de petits pois ou sur les automobiles, mais sur des vecteurs de démocratie que sont encore, Olivier, les médias. Je mettrai quand même un petit bémol sur les propos, même si c'est pas que je partage, c'est que factuellement, on constate que les plus jeunes regardent moins la télévision, ce qui ne veut pas dire qu'ils regardent moins les programmes audiovisuels. Parce que M6, toutes ces émissions qui s'adressent aux plus jeunes, ceux-ci sont regardés en replay et ils sont regardés sur un autre écran. Donc il ne faut pas non plus confondre ma capacité à regarder des programmes audiovisuels via un écran de télévision avec ma capacité de regarder ces mêmes programmes audiovisuels sur mon iPhone, sur ma tablette ou sur mon portable, sur mon ordinateur, ce que font les 16-35 ans et peut-être un peu moins les amis d'Olivier qui sont en maison de retraite.
Les chiffres que j'évoquais, hein, c'était les gens qui sont devant leur poste de télévision, donc 3h42 en moyenne par jour en France. Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement stable malgré tout, même si ça n'empêche pas que la télévision en différé progresse énormément, Fabienne Schmitt, oui. Mais est-ce qu'il y a quand même en tout cas aujourd'hui une nécessité pour les chaînes de télévision à investir, et quand on dit investir, c'est aussi investir financièrement et de manière assez forte ces nouveaux terrains de jeu, disons.
Bien sûr, on voit bien que les usages se déplacent. Alors, les États-Unis ont toujours un temps d'avance sur nous et c'est le sens de l'histoire, hein. La nouvelle consommation des médias, on a de nouveaux acteurs comme Netflix qui donne l'impulsion, donc les chaînes doivent naturellement se diriger vers ces nouveaux modes de consommation, et je dirais même peut-être les pousser. Elles ont un rôle aussi de les impulser si elles veulent elles-mêmes être les acteurs majeurs de ce nouveau monde. Il faut qu'elles donnent l'impulsion. Elles l'ont déjà fait, elles sont déjà développées depuis quelques années, mais tout ça va très lentement en France, où on a un pays où les choses bougent très lentement, et aujourd'hui c'est plutôt quand même, on a plutôt le sentiment que c'est plutôt les nouveaux acteurs, les GAFA, et pas forcément les acteurs traditionnels de la télé qui sont en train de construire le monde des contenus audiovisuels de demain.
Et est-ce que c'est en demandant de l'argent aux opérateurs que ça va permettre à des chaînes comme TF1 de pouvoir mieux aborder ces enjeux-là? Manifestement, alors avec Orange, on est autour d'une négociation, je crois 12 millions d'euros par an, hein, je crois que c'est à peu près
entre 10
ça.
Et 15, mais alors, plutôt plus près de 10.
Voilà. S'ils arrivent à négocier avec l'ensemble des opérateurs, ça fera quoi? Peut-être une cinquantaine, une soixantaine de millions d'euros pour affronter un Netflix. On se doute que ça ne va pas suffire. Est-ce que la pub, par exemple, pour faire de la télévision délinéarisée, est-ce que ça suffit aussi, sachant que le marché de la pub sur Internet est quand même capté par des gens américains que sont Facebook et Google? Comment est-ce qu'on trouve les ressources, finalement, pour être compétitif sur cette nouvelle façon de faire de la télé, Fabienne Schmitt?
C'est toute la problématique du patron de TF1, en fait. Lui, sa mission, c'est effectivement d'aller chercher des ressources ailleurs. Aujourd'hui, on est dans un environnement déclinant pour les recettes publicitaires des chaînes de télévision. Plus ou moins déclinant, parce que je regardais les chiffres qui ont été publiés par le marché aujourd'hui sur l'ensemble de l'année 2017. On note une petite progression pour le média télévisuel, hein, des recettes publicitaires, plus 1%. Mais bon, en tout cas, pour TF1, il faut aller chercher des recettes complémentaires. Ce qu'ils ont négocié aujourd'hui, c'est bien. C'est plutôt bien, ils s'en sortent quand même pas mal. Ils ont réussi à négocier une forte augmentation de leurs revenus. C'est une solution à court terme. Ça ne va pas régler leur problématique de transformation du groupe à long terme.
Nathalie Sonnac.
Non, effectivement, je partage cette approche, mais finalement, pourquoi réfléchir en silo ou en mode exclusif? Ici, il s'avère qu'ils jouent. Alors, je ne dirais pas que ce soit à court terme, mais néanmoins, en tout cas, ils vont chercher de nouvelles sources de financement. Il est clair que notre paysage audiovisuel, c'est pas qu'il soit lent, c'est qu'il est extrêmement cadré. Et on voit bien que le cadre actuel ne correspond plus ni à l'économie émergente, ni donc des nouveaux modes de financement, ni aux nouveaux usages, mais nouveaux usages qui datent maintenant d'une dizaine ou une quinzaine d'années, et ni finalement à cette révolution technologique qui permet d'accéder une fois encore par différents vecteurs à de la télévision. Donc on sent bien que effectivement des acteurs comme Netflix, comme Amazon Prime sont extrêmement puissants parce qu'ils ont une capacité financière très grande, mais aussi parce qu'ils jouent à un jeu dont les règles ne sont pas les mêmes pour les autres. Les acteurs aujourd'hui qu'on appelle historiques, ce qui est assez... en tout cas, dans le temps, c'est la réalité. Que ça soit TF1, on parle beaucoup du groupe TF1, mais il en est exactement la même chose pour le groupe M6 et Canal pour d'autres raisons, même si les modèles d'affaires sont distincts, sont dans un environnement qui est contraint d'un point de vue réglementaire, qui est contraint d'un point de vue fiscal. Pourquoi ? Parce que c'est tout un écosystème, c'est-à-dire toutes les étapes de la chaîne de valeur qui ont été pensées et qui ont été repensées, mais pas suffisamment vite. Et là, par contre, je suis d'accord, c'est beaucoup trop lent, mais qui aujourd'hui ont la possibilité d'être, qu'il faut en tout cas s'offrir la possibilité de les repenser dans ce nouvel environnement.
Mais Netflix, les repenser, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire faire entrer, par exemple, les Netflix, les Amazon dans ce cadre fiscal, ou bien revoir le cadre fiscal pour donner un petit peu plus de souplesse à ces groupes européens ?
Mais on a besoin, enfin, on a besoin d'une régulation qui soit beaucoup plus souple et beaucoup plus agile. Et Olivier Schramek, le président du CSA, l'a dit depuis son arrivée à la tête de l'institution, en disant qu'il fallait des éléments beaucoup plus souples et effectivement beaucoup plus agiles. Et notamment, il y a des nouveaux outils de régulation qui sont utilisés par d'autres acteurs. Ensuite, il y a clairement des relations producteurs et diffuseurs qui sont à revoir et construire des modèles gagnants, pouvoir effectivement faire participer ces nouveaux acteurs au financement de la création, mais certainement pas comme on l'a pensé il y a 30 ans. C'est-à-dire, là, on voit bien qu'on est en train de réfléchir sur la question de la chronologie des médias, des fenêtres d'exposition. La question majeure est celle de la diversité, du pluralisme et du financement de la création. Et ces nouveaux acteurs sont extrêmement attractifs, mais je me rappelle juste un point, c'est qu'ils sont payants. Donc, tout, ça reste quand même un grand luxe pour la plupart des citoyens français de payer pour avoir accès à la télévision.
Ben, j'allais justement y venir à cette dimension, Olivier Bomsel. Est-ce que finalement, puisque des groupes comme TF1, alors on prend beaucoup cet exemple, parce que d'abord c'est la première chaîne française, c'est même la première chaîne européenne, hein, me semble-t-il, en termes oui, d'audience, puisque TF1 cherche de nouvelles ressources pour essayer de réussir sa transformation, appelons-la la transformation numérique, est-ce qu'une des options, ça ne serait pas de se dire, et ben finalement, le modèle de la publicité sur lequel on a bâti le groupe est un modèle qui est caduque, et on va aussi aller vers une offre payante. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît envisageable et qui permettrait peut-être à des groupes comme TF1 justement de se battre à armes un peu plus égales avec des groupes comme Netflix ?
C'est une option, mais c'est pas la seule. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la publicité par la télévision est jugée moins efficace que la publicité par Internet maintenant, d'une certaine façon, parce que quand on arrose un public très vaste, soit on cherche effectivement à toucher un marché de masse et des gens en très grand nombre très rapidement, soit on a un produit qui va intéresser seulement 10% des gens à qui on s'adresse, et tout le reste, d'une certaine manière, sera perdu, voire à la limite, vous fera une image de nuisance.
Sauf que j'ai lu, moi, que la publicité était beaucoup moins bien acceptée bien en sûr. Mode replay que quand on regarde des programmes avec des écrans de pub très identifiés.
Certes, mais quand TF1 achète le site au féminin.com, qui est un investissement de plusieurs centaines de millions, qui se compare pas avec effectivement les commissions qu'ils demandent à ces distributeurs. Je crois que c'est de l'ordre de 400 millions d'euros. C'est assez considérable. Il s'agit bien d'un média qui vient en complément des activités du groupe, qui s'adresse à la ménagère de moins de 50 ans et dont le modèle économique est fondé sur la publicité.
Donc on n'abandonne pas la publicité, mais est-ce qu'on peut y associer des offres payantes ?
Donc, premier point, il s'engage dans une diversification des supports publicitaires et des programmes autour desquels ils vendent de la publicité. C'est un point très important. Et puis, par ailleurs, sur tout ce qui est le replay, etc., pour lequel ils payent aux ayants droit des suppléments pour avoir le droit justement de proposer les contenus en rattrapage, ben ils peuvent très bien imaginer de faire des offres payantes. Je crois que quand ils ont lancé le feuilleton qui s'appelle La Vengeance aux yeux clairs, ils l'ont proposé en prédiffusion sur leur tablette, sur MyTF1, à leurs abonnés, moyennant rémunération. Donc ils sont déjà sur ce modèle.
Est-ce qu'on pourrait aller vers un système un peu hybride, justement, c'est-à-dire avec et de la publicité et certains services qui seraient payants? La question, elle s'est posée à la radio, et notamment à Radio France, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on proposait des podcasts qui, plus ils marchaient, plus ça coûtait cher à l'entreprise, parce qu'il fallait payer des tuyaux, disons, de plus en plus gros, et s'est posé la question de savoir si on allait faire payer aux auditeurs ou pas. Est-ce que cette question, elle se pose dans le secteur de la télé, notamment pour les chaînes privées, Fabienne Schmitt?
Elle se pose parce qu'il y a des modèles économiques qui sont à réinventer. Maintenant, est-ce que le téléspectateur sera d'accord pour payer quelque chose qu'il a gratuitement aujourd'hui? Ça, c'est quand même supprimer un privilège. Je suis pas sûre qu'on paye pour avoir... On pousse l'idée à son extrême, payer pour avoir TF1, par exemple.
Et ça veut dire que TF1 totalement... est considéré comme une sorte de service public, en tout cas rempli une mission de service public.
C'est des chaînes gratuites. D'une certaine manière, quand le téléspectateur a l'habitude de ne pas payer, vous avez quelque chose. Vous avez l'habitude, je ne sais pas, Radio France, vous avez le café gratuit, et demain on vous le fait payer, vous n'êtes pas d'accord. C'est un peu la même chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces modèles économiques, en fait, le marché de la publicité sur ces nouveaux médias, pour l'instant, il représente très peu de revenus pour les chaînes de télévision. TF1 sur le replay, c'est vraiment pas grand-chose. Les revenus publicitaires engrangés par l'écran publicitaire de TF1, l'écran traditionnel, est beaucoup plus important que sur tous ces nouveaux services, en tout cas.
Olivier Bomsel et ensuite Nathalie Sonnac.
Ce qui est très frappant, c'est que à la télé, il y a beaucoup de types de programmes. Vous avez des news, du sport, du divertissement, la météo, le tirage du loto, que sais-je. Et puis vous avez la fiction. La fiction, c'est un récit au passé. Le récit au passé, rien ne vous oblige à le consommer à heure fixe. Donc c'est sur ces produits-là que fonctionne une nouvelle forme de demande. Et ce qui est important, c'est que c'est dans le « à la demande », c'est la fonction de demande qui change. La demande, c'est plus une demande de mobilisation d'une case ou d'occupation d'une soirée, c'est une demande de récit. Et donc, les chaînes de télévision qui programment des récits, et en particulier des récits sériels, dont les narrations feuilletonnent et sont capables de tenir le consommateur en haleine avec des cliffhangers, du suspense, etc., peuvent très bien provoquer chez lui l'envie de regarder la suite très rapidement, le décrochage, si vous voulez. Et à partir de là, il peut y avoir un consentement à payer pour quelque chose. Donc, tant qu'on est dans la diffusion d'un épisode d'un épisode bouclé d'une série comme Les Experts, que les chaînes que TF1 par exemple programme dans l'ordre qui lui convient, le téléspectateur voit pas l'utilité de payer pour un épisode en replay. En revanche, dès qu'il fabrique une série feuilletonnante dans laquelle il y a un récit qui se poursuit, la demande change. Et ça peut entraîner un consentement à payer. C'est comme ça que fonctionne Netflix.
Et d'ailleurs, ça pourrait clarifier aussi peut-être le paysage audiovisuel au moins français, Nathalie Sonnac. C'est-à-dire on aurait un secteur privé qui serait en partie payant et puis un secteur public qui serait entièrement gratuit, financé par la redevance, qui est une source de financement évidemment importante, qui permet peut-être d'ailleurs à la télé publique d'envisager l'avenir de manière un petit peu plus sereine finalement que la télé privée.
Non, ce qu'on voit bien en tout cas, c'est que c'est en mouvement et qu'en aucun cas, pour l'instant, les choses ne sont sont figées, ni dans les usages, ni dans les nouveaux modèles. Les chaînes de télévision sont en train de chercher de nouvelles sources. On a effectivement la publicité sur le net. Alors, je ne partage pas le même point de vue qu'Olivier sur la publicité, comme quoi elle est plus efficace sur Internet. Elle reste extrêmement efficace en télévision, parce que ça reste un écran. On sait quand, on sait qui il y a derrière, on sait comment. Elle n'est pas coupée n'importe comment. Et donc, il y a un brain content quand même qui est assuré.
C'est ça qui parle.
C'est effectivement, Olivier, tu as raison de le rappeler. Non, mais ce n'est pas simplement le CSA qui parle. Les dernières études ont mis en évidence l'écran que pouvait représenter la publicité à la télévision.
Ils vont bientôt avoir un pouvoir de régulation des médias en ligne, donc ils vont peut-être évoluer.
À la radio.
Mais plus sérieusement, il y a besoin d'une régulation plus souple et plus agile. Il y a besoin de modèles gagnants nouveaux entre producteurs et diffuseurs, mais il y a aussi besoin de transformer le secteur de la publicité, en l'occurrence le décret 1992, qui interdit certains produits, qui interdit certains secteurs de donner la publicité. Certaines coupures sont réclamées depuis longtemps par des chaînes de télévision. Et donc, ça complète complètement ce qu'on dit depuis le début. Les modèles sont en mouvement. TF1 va chercher, comme une fois encore, le groupe M6 et les autres chaînes de télévision vont chercher des nouvelles sources de financement. Clairement, la publicité, c'est parce que ça fait une dizaine d'années que le trend est complètement stable, qu'elle n'a pas été renouvelée, qu'elle ne s'est pas renouvelée. On est resté avec des règles anciennes qui fait qu'elle n'a pas pu constituer, à la différence des autres pays européens, un levier de croissance. Il ne reste pas moins qu'il y a toujours la possibilité, on parle souvent actuellement d'une possible grande loi de l'audiovisuel et transformation, on est exactement à ce moment phare où on peut transformer à chaque étape, à chaque point, pour chacun des acteurs de la chaîne de valeur, se mettent à l'ordre du jour, et pour pouvoir beaucoup mieux armer nos acteurs traditionnels face, et nos acteurs nationaux surtout, et européens, d'abord européens, ensuite nationaux, face effectivement à ces nouveaux acteurs que sont encore les GAFA, qui, une fois encore, pardon de le rappeler, mais ça me semble extrêmement important, sont quand même dans une asymétrie réglementaire et une asymétrie fiscale qui fait qu'ils peuvent jouer dans un Eldorado lorsque les autres sont dans des règles qui sont celles aussi, et qui participent au financement de la création, et c'est quand même là la question qui est la question clé.
Asymétrie réglementaire, asymétrie fiscale, et puis asymétrie financière. Dernier élément peut-être qui permet aussi, ou qui permettrait aux sociétés audiovisuelles françaises et européennes d'être peut-être un petit peu plus dans une compétition, peut-être pas d'égal à égal, mais enfin un petit peu plus équitable avec ces géants américains, ça pourrait être. Dans le cadre d'alliances, on parle depuis déjà quelques temps d'une plateforme européenne qui serait un Netflix européen. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui avance, Fabienne Schmitt? Est-ce qu'on peut imaginer que TF1, M6 et puis des chaînes d'autres pays se mettent ensemble pour essayer d'offrir une offre concurrente face à Netflix?
C'est la meilleure réponse qu'elle puisse offrir. Encore faut-il se mettre d'accord. Et elles y ont pensé. Il y a eu des tentatives de discussion très nombreuses ces dernières années. D'abord en petit comité entre TF1 et M6, ensuite avec un comité beaucoup plus large associant France Télévisions et puis Orange. Et finalement, à chaque fois, ça a échoué, quoi. C'est assez complexe à mettre en œuvre. On entend que France Télévisions relance un peu cette idée et veut s'associer à des partenaires publics européens pour être plus fort. J'ai envie de dire, c'est pas gagné, mais ce serait une très bonne réponse et probablement la meilleure qu'on puisse avoir sur vis-à-vis des Netflix, Google et compagnie.
Que pense Nathalie Sonnac du CSA de
cette indispensable. Je pense que c'est indispensable d'avoir une réponse au niveau européen. Et que effectivement, c'est le seul terrain sur lequel nous pouvons jouer. Alors, il s'avère qu'il y a deux ans, les chaînes de télévision, lorsqu'elles ont demandé une rémunération auprès des opérateurs, ça paraissait impossible. Il est apparu pendant de nombreuses années que c'était impossible de s'entendre. Une fois encore, je crois que nous sommes dans le moment propice où les choses peuvent devenir possibles. Et celle-ci est une, me semble, une très bonne idée.
Olivier Bomsel, un Netflix européen, vous y croyez-vous?
Absolument pas. C'est un pur fantasme. Ce que je vois et qui me frappe beaucoup, c'est que la BBC est capable de produire avec Netflix et avec Amazon Prime 10 fois plus, voire 20 fois plus de séries et de programmes de fiction de très haute qualité que la France n'en produit. Le bon modèle, c'est celui du partenariat de coproduction avec ces plateformes et pas du tout celui de construire une plateforme ex nihilo. Mais c'est tout à fait impossible dans la réglementation française parce que les chaînes de télévision ne sont pas propriétaires des droits. Et donc on est bloqué.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Nathalie Sonnac, Fabienne Schmitz, que partage complètement Nathalie Sonnac.
Mais les choix, une fois encore, les choix ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce ne sont pas des choix mutuellement exclusifs, c'est-à-dire qu'un partenariat avec des acteurs américains n'empêche pas la création d'une plateforme européenne. Je ne vois pas pourquoi on oppose tout le temps. Collaborons et partageons, c'est ça l'économie numérique.
Le dernier mot a donc été signé par Nathalie Sonnac. Vous pouvez réécouter tous les mots qui ont été prononcés sur notre site franceculture.fr, émission à écouter, à télécharger, tout ça, vous le savez, c'est gratuit. Merci à toute l'équipe du Grain. Merci à Arnaud Laporte pour être présent tous les soirs ici à la même heure pour la dispute.
Oui, à 19h03 ou un peu plus, mais bon, c'est le CSA qui nous fait déborder, c'est pas grave. On ne dira rien, Hervé Gardette. On va parler de musique classique ce soir et dans Du Grain à Moudre demain.
Demain, on se demandera si Mayotte est aux confins de la République.